Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal Grâce Amzati.
Le gouvernement congolais réaffirme son engagement à l'aboutissement de l'accord de Doha avec les rebelles de l'AFC M23. C'est ce qu'a déclaré ce mardi 2 septembre, ici à Kinshasa, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemain Shabani. Les détails dans quelques instants. L'actualité reste encore dominée par la condamnation de l'ancien ministre de la Justice, Constant Mutamba, à 3 ans de travaux forcés par la Cour de cassation pour détournement des deniers publics. Cependant, d'aucuns se posent la question de savoir si l'ex-ministre ira en prison ou pas. Que signifie travaux forcés? Explication à suivre dans ce journal. Des élus communaux et leaders locaux de la ville de Bunyanituri sont en formation depuis ce mardi sur la bonne gouvernance, une initiative de l'ONG Action pour la justice, le développement et les droits humains. Nous en parlons avec Jedidia Mabé, la responsable de cette structure, qui est notre invitée. Mesdames et messieurs, bonjour. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemain Shabani, a renouvelé ce mardi à Kinshasa l'engagement du gouvernement en faveur de l'aboutissement de l'accord de Doha. Lors du briefing de presse co-animé avec le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Muyaya, il a assuré que les experts gouvernementaux travaillent activement à la mise en œuvre des mesures de confiance prévues dans l'accord de principe entre Kinshasa et les rebelles de l'AFC M23. À ce sujet, Patrick Muyaya a pour sa part souligné que toutes les démarches devront s'inscrire dans le strict respect de la législation congolaise. Les explications avec Blaise Ndongala Mayanda.
Le gouvernement souminoide restait attaché au processus de Doha conduit sous la médiation qatari. Jacquemain Shabani a indiqué que l'exécutif national a déjà mobilisé des experts pour appliquer des mesures de confiance contenues dans l'accord des principes, notamment celles relatives à la libération des prisonniers par l'une ou l'autre partie. Jacquemain Shabani.
Les questions de liberté, de détention sont fonction des textes légaux et des institutions qui s'en occupent. Nous avons un pouvoir judiciaire. Actuellement, c'est un travail de fond qui est en train d'être fait par les experts de ces différentes institutions pour donner une réponse à la procédure qui va être mise en œuvre pour arriver à l'exécution de cette question.
De son côté, le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Muyaya, a insisté sur le fait que toutes les mesures de confiance doivent être mises en œuvre dans le respect de la loi congolaise.
La mise en place avec la facilitation du Comité international de la Croix-Rouge est dans le cadre de la loi congolaise d'un mécanisme permettant l'organisation de la libération des prisonniers détenus par l'une ou l'autre partie.
Pendant que les négociations politiques se poursuivent à Doha, la situation sur le terrain reste tendue. Dans les provinces du Nord et Sud Kivu, les combats s'intensifient entre les rebelles soutenus par les Rwandais et les forces armées congolaises appuyées par les combattants Wazalendo.
Pendant ce temps, l'ancien président de la République, Joseph Kabila, dénonce l'instrumentalisation de la justice, la persécution politique et les menaces pesant sur la réconciliation nationale. Il s'est ainsi exprimé dans une tribune envoyée le 1er septembre à Jeune Afrique. Joseph Kabila tire la sonnette d'alarme sur l'état de la nation qu'il qualifie de préoccupant. Il rappelle avoir proposé il y a 3 mois un plan en 12 points pour sortir de la crise et justifie son intervention actuelle par une profonde préoccupation pour l'avenir du pays. Au cœur de sa critique, Kabila cible le faux procès contre lui. Alain Rung.
Selon Joseph Kabila, le Sénat a illégalement et en violation de la Constitution levé ses immunités d'ancien président et de sénateur à vie en mai 2025, ouvrant la voie à des poursuites par un tribunal militaire de Kinshasa. Il est accusé de trahison, crimes de guerre, meurtre, viol, torture, soutien à des insurrections armées et complicité avec l'AFC M23. Ces accusations mensongères et politiquement motivées ont été orchestrées par un pouvoir désespéré et incapable d'assumer la responsabilité de ses propres échecs, affirme-t-il, soulignant l'absence totale des preuves tout au long du procès. Pour le président honoraire, ce n'est pas une quête de justice, mais une stratégie pour faire taire l'opposition et écarter un leader majeur, facilitant un régime sans contestation et une modification constitutionnelle pour un pouvoir indéfini. Concernant la paix, Joseph Kabila juge insuffisant l'accord récent avec le Rwanda, notant que l'effusion de sang se poursuit avec des groupes armés comme les ADF, FDLR et CODECO alimentés en armes par le gouvernement. La réconciliation nationale ne sera pas atteinte grâce à ces accords ou des procès sélectifs. Elle nécessite un dialogue authentique réunissant toutes les parties prenantes.
Alain Irungu-Mushinji, en réaction, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, estime que Joseph Kabila, ancien président élu, se moque de la nation et des victimes en parlant des dialogues après avoir semé la violence à Rutshuru, Nyiragongo et Masisi, privant ces territoires d'élections en 2023. Et puis, le coordonnateur national du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS, Jean Dudien Tangantita, en mission officielle à Ituri depuis lundi, a visité hier quelques projets de réinsertion sociale et de cohabitation pacifique des ex-combattants, notamment celui financé par la MONUSCO à Tchere, à environ 5 km au sud-ouest de la ville de Bounia. Le point sur l'évolution de ces projets avec vous, Martial Kiza Biamongo.
Lancé depuis mai 2025, les projets financés par la MONUSCO à travers sa section de désarmement, démobilisation, réinsertion et stabilisation portent sur la réinsertion des ex-combattants. Il comprend notamment l'élevage des vaches au profit de démobilisés issus des groupes d'autodéfense et de membres de la communauté locale, soit une cinquantaine de bénéficiaires. Le coordonnateur national du PDDRCS, Jean de Dieu Tangantita, s'est dit satisfait de l'évolution du projet. Avant de regagner le centre-ville de Bounia, la délégation du PDDRCS s'est rendue sur les chantiers des travaux de construction du bureau de la coopérative des ex-combattants où ces derniers pourront réaliser avec la communauté locale des activités génératrices de revenus. Au final, satisfait de l'évolution des projets visités, le coordonnateur national a encouragé les bénéficiaires, je cite, à travailler dur pour gagner leur retour à la vie normale. Bounia, Martial Kizabiamongu, Radio Okapi.
Vous le savez, l'ex-ministre de la Justice, Constant Mutamba, a été condamné à 3 ans de travaux forcés pour détournement des fonds publics sans possibilité de libération conditionnelle. La Cour de cassation qui a rendu son verdict hier a également prononcé des peines complémentaires, à savoir 5 ans d'inéligibilité et d'interdiction d'accès aux fonctions publiques. Mais que signifie réellement une peine des travaux forcés? Constant Mutamba sera-t-il contraint de travailler ou simplement privé de sa liberté? Écoutons Maître Jérémy Kabambi Mukoka, avocat au barreau de Kinshasa-Gombe, dans ses propos recueillis par Pauline Mouzalia.
La peine de travaux forcés est une des peines prévues par le code pénal congolais qui est infligée par une juridiction compétente à une personne condamnée pour infraction grave, mais elle est accompagnée, contrairement à d'autres peines privatives de liberté, elle est accompagnée d'une obligation de travail sous contrainte et sous surveillance. Cette peine est encore exécutée en République démocratique du Congo parce que la loi n'est pas encore révisée ou bien abolie, mais seulement l'adhésion aux instruments internationaux garantissant les droits fondamentaux. Cette peine s'identifiant de plus en plus à l'esclavage qui est abolie par des réformes modernes a serré mieux à une peine de prison parce que on trouve mal de contraindre les gens à un travail dégradant qui est contraire aux droits fondamentaux reconnus à tout être humain. Donc il s'avère que la peine n'est pas exécutée dans la rigueur de ces termes.
Par ailleurs, 2 jours après l'installation de Joyce Tunda comme maire intérimaire de Lubumbashi par la justice, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sort de son silence et précise que c'est Patrick Kafwimbi qui gère la ville. Jacques Chabani l'a fait savoir ce mardi au cours du briefing de presse co-animé avec son collègue de la communication des médias, Patrick Muyaya. On écoute Jacques Chabani dans cet extrait sélectionné par Jean Gandukabongo.
Les maires des villes sont des territoriaux qui travaillent sous la tutelle du ministère de l'Intérieur, avec qui ils ont une relation de subordination. C'est pour ça, même lorsqu'ils sont nommés par ordonnance présidentielle, ils sont notifiés par le ministre de l'Intérieur. C'est pour cristalliser cette relation de subordination. Et même lorsqu'ils obtiennent une décision de justice, c'est le ministère de l'Intérieur à travers son ministre qui, une fois signifiés, les notifie, les installe pour leur permettre de travailler dans ce cadre-là d'une relation de subordination. Malheureusement, dans la ville de Lubumbashi, nous sommes dans le constat d'incidents qui vont se régler. Et ce sont malheureusement encore des incidents d'insubordination, mais ça va se régler. Il y a un maire, M. Patrick, qui gère la ville. Je rassure les louchois que ces incidents vont trouver un règlement dans les jours qui viennent et la quiétude l'habitude va reprendre la ville. Il n'y a pas à s'affoler sur cela. C'est peut-être des manques d'expérience qui font qu'on en arrive à ce type de situation-là.
Bonne nouvelle pour les habitants de la ville de Cabinda dans la province de Lomami. Le centre secondaire de la régie des eaux Cabinda vient d'être doté d'un groupe électrogène de 150 kVA par la direction générale de Kinshasa afin de résoudre les problèmes récurrents liés à la carence d'eau dans cette ville. Une situation qui réjouit plusieurs abonnés de cette ville. Des explications avec Esther Dalafina.
Les travaux d'installation de ces nouveaux groupes électrogènes de 150 kVA sont en train d'être effectués par la société Fawaz Trading Company. C'est un groupe complet inclus de toutes ces pièces de rechange pour assurer une performance interrompue. La joie des habitants est immense. Certains affirment que cette dotation vient résoudre les problèmes récurrents des pannes enregistrées sur les anciens groupes électrogènes qui plongent souvent la ville dans la carence en eau potable.
Nous étions en train d'effectuer des longues distances pour puiser de l'eau. Nous aurons de l'eau en abondance, une eau potable pour nous épargner aux maladies hydriques. C'est vraiment une très bonne chose.
Selon le chef de centre secondaire de la régie des eaux, Cabinda, Abakouk Kiabou, cette dotation apporte un nouveau souffle.
Et nous les garantissons aussi que nous venons de recevoir un nouveau groupe. Nous allons faire de tout mieux pour que la population puisse accéder à cette eau-là régulièrement sans qu'il y ait des coupures.
Signalons que d'autres habitants souhaitent que la régie des eaux élargisse pour l'instant son réseau de distribution d'eau potable sur toute la ville de Cabinda. Esther Ndalafina Mbujimai, Radio Okapi.
Sensibiliser les policiers de la mission de maintien de la paix MONUSCO sur le cadre des références qui définit la manière dont la police des Nations Unies opère, c'est en tout cas l'objectif d'une série d'ateliers tenus 5 jours durant ici à Kinshasa. La clôture est intervenue vendredi. Ces rencontres ont été organisées par la division de la police des Nations Unies, UNPOL. Différentes composantes de la police, de la mission onusienne y ont pris part. Ces forces de police ont expliqué les défis auxquels elles font face en République démocratique du Congo. C'est ce que nous dit Josué Kefebe.
La MONUSCO est la troisième mission à bénéficier de ces ateliers, organisés déjà à la MINUSCA en République centrafricaine et à INFICIP au Chypre. Ahmed Irish, officier de la police des Nations Unies au secrétariat général de l'ONU, donne l'essence de ces assises.
Dans les faits, deux de ces ateliers ont été déjà organisés à la MINUSCA en Centrafrique et à INFICIP Chypre, respectivement en juin et en juillet. Ces ateliers ont pour but de sensibiliser et d'opérationnaliser les directives du cadre d'orientation stratégique dans toutes les de maintien de la paix.
Dans son rôle de définir des politiques et des directives pour la police des Nations Unies, des opérations de maintien de la paix, UNPOL recueille aussi, à travers ses ateliers, des expériences des différentes composantes. Ahmed Ayous explique.
À travers ces présentations, on explique et on sensibilise sur le cadre d'orientation stratégique et ses principaux piliers, si on peut dire. Après, on recueille le retour d'expérience des collègues qui sont déployés ici, à travers les questions-réponses, mais à travers aussi des présentations qu'ils vont eux-mêmes faire pour expliquer les défis auxquels ils font face.
Ces ateliers entrent dans le cadre de la visite du conseiller de UNPOL, Faisal Chakar. Au cours de sa visite à Kinshasa, ce dernier a eu des discussions stratégiques avec la chef de la MONUSCO, Bintou Keïta. Ils ont exploré la question du soutien à la réforme du secteur de la sécurité en RDC. C'est l'envie de construire des institutions nationales efficaces et responsables pour une paix durable.
Les sages-femmes du centre de santé Saint-Vincent-de-Paul de Lutendele, un quartier de la commune de Mongafula ici à Kinshasa, appellent les femmes à allaiter leurs enfants jusqu'à 2 ans et à respecter leur calendrier vaccinal. Cela en vue de les protéger de plusieurs maladies. Cet appel y est régulièrement lancé après les constats que certaines mères refusent de faire vacciner leurs enfants, d'autres ne terminent pas le calendrier vaccinal. Il y en a aussi qui n'allaitent pas correctement et se lancent trop vite à la diversification alimentaire. Abraham Kabuka s'est rendu sur place à Lutendele. Il nous en parle. Voilà, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions.
Actualité internationale.
6 millions d'enfants supplémentaires risquent d'être déscolarisés l'an prochain en raison des coupes dans l'aide publique au développement. C'est le cri d'alarme que lance ce mercredi 3 septembre l'UNICEF. Dans un communiqué, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance indique que pour le seul secteur de l'éducation, cette aide se verra diminuer de 3,2 milliards de dollars, soit une baisse de 24% par rapport à 2023. L'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale seraient les plus menacées.
L'invité.
Nous sommes à Bounia, où les élus communaux et leaders locaux se mettent à l'école de la bonne gouvernance. Depuis hier, ils suivent une formation de 3 jours pour renforcer leurs connaissances sur l'organisation de l'État, le contrôle citoyen et la gestion communale. Une initiative de l'ONG AJDDH, Action pour la justice, le développement et les droits humains, qui entend préparer ses acteurs à mieux jouer leur rôle, même dans le contexte de l'état de siège. Djedi Diamabella, responsable de l'ONG AJDDH, s'entretient avec Jean-Claude Loki Dile.
Djedi Diamabella, bonjour.
Bonjour, monsieur.
L'action pour la justice et le développement et les droits humains renforce les compétences des conseillers communaux ainsi que les acteurs de la société civile en matière de la gouvernance démocratique. Que peut-on comprendre par cette thématique ou, si vous voulez, que peut-on comprendre par cette démarche de votre organisation?
Cette formation que nous organisons aujourd'hui poursuit 3 objectifs spécifiques. Le premier objectif pour nous, c'est renforcer les capacités des conseillers communaux et des leaders locaux sur 3 ou 4 thématiques principales. D'abord, sur l'organisation politique, administrative et territoriale de l'État congolais. Ensuite, sur le principe démocratique, le principe de la bonne gouvernance démocratique. Troisièmement, sur le mécanisme de contrôle, voyez-vous, sur le mécanisme de contrôle à la fois citoyen et politique de la gestion de la commune. Et enfin aussi sur, si vous voulez, tout ce qui a trait avec les techniques ou les méthodes qui doivent être utilisées par les conseillers communaux pour contribuer à l'amélioration de la gouvernance des communes.
Nous connaissons tout ce que l'Ituri est sous un régime spécial, état de siège. Que vont faire ces conseillers communaux avec toutes les connaissances qu'ils vont apprendre? Auront-ils vraiment l'occasion de contrôler, d'avoir le contrôle citoyen ou le contrôle politique de leur hiérarchie?
Il y a deux aspects ou deux éléments importants à soulever par rapport à cette question. Le premier élément, c'est que l'état de siège ou le régime spécial d'état de siège n'est pas éternel. C'est pourquoi même on appelle ça mesure spéciale d'état de siège. C'est-à-dire que c'est pour résoudre un problème. Et le problème ici, on le sait, c'est le problème sécuritaire. Et qui ne va pas demeurer toujours éternellement. Ça veut dire que nous sommes assez optimistes sur le fait que la paix reviendra et que lorsque la paix reviendra, l'état de siège sera levé. Mais le deuxième élément qu'il faut soulever, c'est que même dans le contexte de l'état de siège, il y a un rôle citoyen que doit jouer les leaders locaux et il y a aussi un rôle institutionnel que doit jouer les conseillers communaux. C'est pourquoi même malgré ces régimes spéciaux-là, pour nous c'était important de préparer ces acteurs-là pour qu'au tenter, ils soient à mesure alors d'agir efficacement pour améliorer la gouvernance des communes.
Comment pensez-vous, j'ai dit Dia Mabella, même sous l'état de siège, les conseillers communaux ou acteurs de la société civile peuvent collaborer, donc, avec les autorités en place dans le cadre de la gouvernance démocratique et améliorer justement leur gestion, donc la gestion de la chose publique?
En fait, les conseillers communaux et les leaders locaux sont des élites politiques et citoyennes qui sont le plus rapprochés des populations. Et en ces termes, ils ont des informations essentielles qu'ils peuvent partager aux autorités de l'État des sièges, qui sont là pour veiller à ce que l'ordre public, à ce que la sécurité soit garantie. Il y a cette passerelle de collaboration en termes d'échange d'informations. Ils peuvent mener des enquêtes citoyennes ou même mener des enquêtes parlementaires sur des questions sécuritaires et partager des notes techniques aux autorités établies par l'état des sièges pour que celles-ci arrivent à améliorer la gouvernance sécuritaire de ces entités-là. Ça, c'est de un. Et de deux, en plus des informations qu'ils peuvent transmettre à ces autorités, il y a aussi des plaidoyers qu'ils peuvent mener pour justement constituer des garde-fous afin que ces autorités-là restent dans le cadre de leur mission et que l'état de siège ne soit pas un moment où les violations massives des droits humains, par exemple, vont se commettre.
Dernière question, les pressions que nous avons, on peut se tromper, et que les conseils communaux, les députés provinciaux notamment, ne sont pas peut-être autant considérés par les autorités en place. Quelles sont les recommandations que vous, peut-être que vous pouvez leur formuler ou leur demander, bien qu'on soit sous un régime spécial, dans le cadre justement de cette collaboration entre toutes les parties prenantes, quoi.
Moi, j'aimerais dire qu'en dehors d'être une mission régalienne de l'État, La sécurité est une affaire de tous. Et pour ça, les acteurs politiques et même les acteurs de la société civile ont un rôle à jouer dans la gouvernance sécuritaire. C'est comme ça que j'en appelle à l'ouverture des autorités établies sous état de siège pour collaborer avec ces acteurs-là. Ils sont essentiels. Ils sont essentiels dans la pêche aux informations. Ils sont essentiels dans les propositions des solutions. Ils sont essentiels même dans la légitimation des autorités de l'état des sièges. Mais ils ont besoin de personnes qui ont été élues par la base, des personnes qui sont écoutées par leur base pour traquer alors les ennemis de la paix.
J'ai dit Didier Mabella, je vous dis merci.
C'est moi qui vous remercie.
L'invité du journal était avec Jean-Claude Loki Dilé. À Bounia, il est 16h20. Par ici s'achève ce journal, mis en onde par Jean-Claude Nsiala, Mona Makengonswalo. La coordination assurée par Élisée Chikota sous la supervision éditoriale d'Alain Roumouchinge. Grâce à Mzati Massanzi, je voulais présenter. Merci de l'avoir écouté.